Salut,
bon, ça va bien avec l'humoriste Isabelle Monette.
T'es déjà vraiment bien. Je voulais te remercier.
J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va bien. J'ai appris récemment que mon podcast,
mais c'est pas grave parce que la semaine prochaine, je vais faire une chronique sur ces questions.
La mémoire.
Moi, le cerveau, ça me casse toujours intéressé.
Comment le cerveau fonctionne, la mémoire à long terme. Je sais pas quoi faire. Je t'invite à y aller
parce que justement, c'est quelque chose qui est je dois beaucoup travailler,
donc je m'en suis à par cœur et que je dois le présenter à la culture à Hochelaga.
Donc, ensemble, on va décortiquer dans ma vie le 14 juin.
La mémoire, c'est quoi?
Ça n'a rien à faire.
Si jamais tu apprécies aussi l'épisode,
je dois faire pour un partage.
Comme tout excité de t'annoncer ça, j'ai jamais comme présenté devant le public. Actuellement, je le fais souvent dans mon sous-sol.
Fait que devant vous, ça va être vraiment très drôle. Actuellement, c'est mes chats qui sont mon public, mais là, ça va être peut-être toi,
le 14 juin à 19h.
En tout cas, bref, là, j'avance. Je vais voir Isabelle Monette. J'ai parlé du slam. Donc, avec que le slam, j'ai parlé de David Goudreau, qui est vraiment un très bon poète québécois dans lequel le présenter à Bonsoir, une lettre aux garçons, parler de violence avec des mots magnifiques.
L'épisode va être disponible la semaine prochaine, mercredi, sur YouTube et par
Spotify.
Et là, cette fois-ci, je suis humoriste et enseignante de te présenter une et je te souhaite de passer
que j'adore
une excellente
que j'ai rencontré
à l'École nationale de l'humour en faisant des cours du soir en présentation de numéros. Et l'objectif du cours à la fin, c'est de pouvoir faire du stand-up. Donc, on loue un endroit, il y a un endroit réservé où tu peux dire tes gags que tu as travaillé tout au long de la session. Elle s'appelle Isabelle Monette. Et à force de lui avoir parlé, elle, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'elle a créé justement une soirée d'humour 100% féminin. Donc, dans les soirées d'humour, ça s'appelle les Allumetières. Elle va justement vous en parler un peu plus dans notre entrevue. Fait que si tu la connais pas, Isabelle Monette, ben, je t'invite aussi à aller la voir en spectacle. Elle a justement créé un show d'humour qui s'appelle Pareil, pas pareil, qui a été accepté au Festival d'humour, le Minifest à Hochelaga. Donc, c'est le 14 juin à la même date que moi. Donc, si tu veux voir des humoristes super drôles, super intéressants, qui vont parler de différences, je t'invite aussi à aller voir leur contenu. Arrête de parler, et voici notre conversation fantastique avec moi et Isabelle.
À tantôt! Puis je sais que tantôt, bonjour, j'en ai parlé Isabelle. Des projets
salut,
qui arrivent.
Ça va bien.
Toi. Ça va justement, bien. Il y a eu
oui,
ma TV qui est venue vous intéresser.
Je voulais te remercier de t'être déplacée en premier
qui vous a réel à Terrebonne pour avoir votre soirée évident, des autorités. C'est déjà sur les réseaux sociaux. Puis je trouve ça va bien.
Comment dire,
je
ne suis pas une excellente conductrice, mais écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça présentement.
Dire aux autres,
on dirait des fois que les choses s'alignent.
C'était aux Allumetières, la soirée des Allumetières.
Présentement, je sens que ça avance.
Il y a un autre moment aussi, on s'est rencontrés à part les Allumetières.
Je suis très chanceuse d'avoir... Et je pense qu'on s'est croisés dans un atelier à l'École nationale de l'humour,
la raison pour laquelle j'ai été
annulée parce qu'on est tombé en pandémie.
Je trouve que... Oui, ça se peut. C'était en présentation
de
game, par exemple.
Ouais, tu as des gens de groupe, puis après ça, après ça, on était
la barrière est là, mais sur la surmonte,
c'était violent.
Je trouve que
c'est le confinement violent, c'est le premier, là.
De sauter la barrière.
On s'est fait croire que c'était 28 jours.
Ça l'a. Puis ça donnait. Et en plus, on était full préparés pour faire le spectacle d'humour.
T'es vraiment fin de dire ça, ça me touche pour vrai que tu me dises ça. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est quelque chose que j'estime beaucoup.
Écoute, le courage,
si lointain souvenir, pas si lointain.
C'est des choses que j'essaie d'incarner aussi dans ma vie.
Aussi, c'était
fait
tellement
que,
ça.
Oui, je trouve ça super beau que tu me dises ça.
Oui, aussi, c'est justement une de tes questions, si tu parles de... Dans les mots,
aussi, aux Allumetières, qui est à Verdun, puis le Social Comedy Club,
une des questions qu'on va parler plus tard, peut-être pas là.
Tu me parles un peu plus de ta soirée également.
Puis la mission qu'on s'est donnée, c'est de créer un espace d'expression pour les femmes en humour. Donc, on organise des soirées d'humour 100% femmes. On n'invite que des humoristes femmes ou s'identifiant comme femmes à participer. Et c'est définitivement une plateforme de discrimination positive. Mais malheureusement, je pense que dans notre société, on est encore à l'état pour nous besoin que ces lieux-là existent pour les différentes minorités. Et notre seconde soirée, c'est une soirée d'humour qui, elle, se veut une soirée paritaire. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. De femmes que d'hommes. Ces temps-ci, ça fait la programmation de la soirée. Je suis scotchée là quand même depuis quelques années.
Au Social Comedy
Club. Mais on a une alternance là, aux deux endroits. Vraiment, la soirée au social ouais, est animée. Tantôt, je parlais de par, j'ai beaucoup d'estime pour la démarche de David Quatre et on fait l'animation à tour de rôle. La formule est peut-être amenée à être modifiée. Et pour ce qui est de la soirée des animateurs qui est invitée maintenant, sont à tour de rôle. Puis on se développe tranquillement des projets communs aussi en création.
Ouais, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup
c'est des beaux projets aussi s'annoncent. Je sais que tantôt, on s'en est parlé des projets qui arrivent qui, pour toi.
En fait, comment tu utilises ça comme outil d'intervention en travail social, entre autres, avec gens qui vivent en milieu carcéral.
Qui vous a interviewé pour avoir votre soirée.
J'aime la démarche. Je trouve que c'est extrêmement courageux ce qu'il fait.
Je trouve que ça va bien.
Je trouve que se lever dans la vie et dire la poésie, c'est beau et c'est grand. Déjà, en soi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Présentement, on dirait des fois que les choses s'allient.
Ça m'inspire. Puis présentement, autant, je sens que ça avance. Puis oui, ça va bien.
Autant ce qu'il livre sur scène que ce qu'il écrit dans ses romans. Pour moi, c'est vraiment. Je vois toute la démarche, toute la continuité dans le propos. C'est un peu le type de modèle que moi j'aime. C'est comme
dans le sens, tu as une idée.
Que j'aspire à devenir, mais d'avoir cette espèce de combinaison-là, cette espèce d'équilibre-là entre la scène et l'écriture.
Puis ça, je trouve que c'est beau de voir ça.
Puis je trouve que c'est beaucoup barrière, de prise de position là, dans son propos.
Puis ça donne, ça m'inspire.
Des positions qui ne sont pas toujours faciles.
Wow, t'es vraiment fine de
assurer. Oui, de dire ça. C'est quelqu'un qui utilise l'espace que tu me dis qu'il a en tant qu'artiste. Pour moi, c'est quelque chose des autres. Puis pour améliorer quelque chose que j'estime beaucoup,
le courage, puis l'audace,
c'est certain que ça y fait du bien.
C'est des choses que j'essaie d'incarner aussi.
C'est
la démarche artistique,
c'est comme ça, ça nous fait du bien à nous.
Et je trouve que dans ce sens-là, c'est
beau que tu me dises ça.
Mais oui, bien, c'est justement une de tes questions.
Il y a beaucoup de gens pour qui ils disent des choses qui sont significatives.
Je trouve que c'est un acte de générosité. Puis dans une des questions qu'on parlait plus tard, peut-être pas là, tu as des livres à nous partager. Tu parles de David Drouet, je me disais là, je pense que je vais des hommes par rapport, je ne sais pas si tu, les femmes par rapport les femmes, comment on devrait bien les traiter, des comportements qui devraient être mieux valorisés quand on interagit avec.
Ok, je suis super contente que tu parles de ça. Parce que moi, j'ai envie de revenir là-dessus.
Oui,
parce
donc,
que, bon, moi, je suis une humoriste féministe.
Je t'envoie une liste de 10 questions. Je l'ai dit sur scène.
Je l'ai dit en entrevue.
On va commencer avec la première.
Très bien avec ça.
En lien avec une personne.
Et puis, j'ai trouvé ça très difficile de voir.
Sur les médias sociaux.
Oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent,
qui sont venus cru aussi ces temps-ci.
Ça fait, je suis scotchée là quand même depuis quelques années. Qu'elle est... plein de femmes
mais
féministes.
Je dirais que j'ai vraiment
tapé sur la tête d'audace puis de quoi. J'ai beaucoup d'estime pour la démarche de David Goudreau.
Puis qui avait une espèce de colère sur le fait que
parce qu'il y a eu des
qui était-il lui homme blanc pour faire un statement féministe.
Puis en tout cas c'est même plus clair dans ma tête. Je trouvais que c'était tellement émotif. Pour moi ça m'a aussi beaucoup dans l'émotion.
Mais j'ai de la misère à
c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la démarche.
Elle me rappelle exactement des propos mais
la poésie. Puis
c'est genre une situation où j'ai de la misère à comprendre pourquoi comme société on n'est pas tous debout en train d'applaudir et de dire merci David. T'as une tribune,
social, entre autres,
tu l'as pris pour sensibiliser les gens
qui vivent en milieu carcéral
à la cause féministe. Puis, je veux dire, définitivement, ça, t'es, j'aime la t'es démarche, un allié de la cause féministe, en plus d'une manière super positive dans la prévention,
dans la poésie,
en faisant un appel à quelque chose
déjà,
justement auquel
lui s'identifie, c'est-à-dire le comportement toxique masculin, tu sais.
Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Puis, autant complètement, je trouve que c'est un équilibre qui est vraiment fragile
que ce qui écrit.
C'est vrai pour plein d'autres romans, pour moi, c'est vraiment. Plein d'autres
je vois toute la démarche, je vois toute la continuité dans le propos.
Tu sais, je pense
c'est un peu le type de modèle
de grand
que moi j'aime, c'est comme artiste, puis.
Et qu'on va aller d'un extrême à l'autre,
mais dans cette espèce
qu'à un moment
de combinaison-là, cette espèce d'équilibre entre la scène et l'écriture.
Des points médians, là, parce que la vie est souvent dans le gris, pas dans le noir, pas dans le blanc.
Puis, je trouve que c'est beaucoup de prise de position
à dialoguer, tu sais, les hommes et les femmes sur le féminisme, les mieux nantis, les moins nantis,
à assumer,
les gens de souche,
racinée
québécoise, les gens adoptés, les gens de la diversité.
Puis pour améliorer,
mais il faut en parler.
Puis il faut en parler ensemble, puis il faut en parler le plus possible
à lui aussi.
Et puis moi, c'est la démarche artistique, c'est comme ça, ça fait du bien à nous.
Le phénomène de David Goudreau,
mais je veux dire, il pense beaucoup.
Il y a un homme blanc,
puis je pense
c'est genre qui prend
beaucoup de gens qui dit des choses qui sont significatives,
engagé de gauche à la télé d'État.
vraiment sa manière de pratiquer son art. Je ne vois aucun problème. Je vois même une révolution artistique et médiatique dont je me réjouis. Puis en plus, il parle de poésie. C'est quand est-ce qu'on parle de poésie? Quand est-ce qu'on lit de la poésie? Je veux dire, depuis 20 ans, personne ne lit de poésie à la télé.
On devrait bien les traiter.
Fait que je veux dire, tout ça pour moi est juste bon.
Fait
que je me fâche, je m'emporte, mais je comprends pas. Je suis super contente que tu me parles de ça. Parce que moi, j'ai envie de revenir là-dessus.
Les gars
parce
en parlent.
Bon, moi, je suis une humoriste féministe assumée. Je l'ai dit sur scène.
Ça, que souvent, les commentaires vont.
Je l'ai dit en entrevue.
Mais en même temps, je suis très bien avec ton point de vue parce que, tu sais, c'est comme, mettons, l'intimidation.
Et puis, j'ai trouvé ça très difficile de voir.
L'intimidation.
Sur les médias sociaux, qui sont d'une cruauté, ma foi, légendaire en 2021.
C'est l'idée que tout le monde peut en parler, ça affecte tout le monde.
Plein de femmes. Mais je comprends qu'il y a quelque chose de très fragile, puis il y a une sensibilité. Que moi, j'ai. Moi, je n'ai jamais parlé de discrimination raciale dans la vie. Je ne suis pas concernée.
Qu'il y avait une espèce de
colère. En même temps, je suis super concernée, là, qu'on se comprenne bien, mais...
Qui était-il, lui, homme blanc?
Comment puis-je témoigner de ça?
Féministe.
Le point de vue que j'ai là-dessus, c'est là-dessus.
En tout cas, c'est même plus clair dans ma tête. Je trouve que c'est tellement émotif. Moi, c'est mon entourage dans l'émotion. Ça
fait que j'ai de la misère.
Mon ami Emna Acho.
Elle me rappelle exactement des propos, mais
qui me parle de c'est quoi
la
réalité.
C'est genre une situation où j'ai de la misère à comprendre pourquoi, comme ça, c'est
tout. J'essaie même pas de dire, je serais d'apprendre.
Non, j'apprends.
Merci, David.
Même chose pour les communautés autochtones.
Tu l'as pris pour sensibiliser les gens à la cause féministe. Je veux dire, définitivement, t'as été un allié de la cause féministe. En plus, d'une manière super positive, dans la prévention,
voyons,
en faisant un appel à quelque chose, justement, auquel lui s'identifie, c'est-à-dire le comportement toxique masculin, tu sais.
Celle-là, ça m'échappe.
Fait que ça, c'est quelque chose qui m'échappe.
Présentement, une très, très grande contribution.
Complètement. Je trouve que c'est un équilibre qui est vraiment fragile. Puis, c'est vrai pour plein d'autres positions sociales, puis pour plein d'autres positions politiques.
Il y a quelque chose qui
tu sais, je pense qu'on est dans une époque de grand changement.
La personne qui le disait.
Et qu'on va aller d'un extrême à l'autre. Je souhaite qu'à un moment donné, on trouve des points.
Puis tu sais, au-delà de la personne, je pense que la vie est souvent dans le gris, pas dans le noir, pas dans le blanc.
Je souhaite qu'on réussisse.
Qui pour moi est aussi grande que celle de Daniel Laferrière.
Les hommes et les femmes, sur le féminisme.
Je pense que la contribution.
Les mieux nantis, les moins nantis. Les gens de souche.
Quand on sait québécoise,
les gens adoptés, les gens de la diversité
d'exister sur la place publique.
Mais tu sais, mais il faut en parler.
Puis il faut en parler ensemble, puis il faut en parler le plus possible.
Quatre romans.
Et puis moi, c'est ça que j'aime aussi, là, du
un ou deux recueils de poésie.
Je pense qu'on est rendu dans le phénomène de David Goudreau.
Mais je veux dire, on n'est pas
un homme blanc
dans Daniel Laferrière.
Ce genre qui prend une position.
Mais je pense que la contribution peut être
engagée.
Pour moi, c'est un auteur marquant au Québec.
À la télé d'État.
Comme Daniel Laferrière, pour moi, est un auteur fondamental au Québec.
Je ne vois aucun problème. Je
chante même une révolution artistique et médiatique dont je me réjouis.
Moi, c'est vraiment
dans mon spectre de ce que j'aime.
Ben oui,
c'est quand est-ce qu'on parle de poésie? Quand est-ce qu'on lit de la poésie? Je veux dire, depuis 20 ans, personne ne lit de poésie à la télé. Fait que je veux dire, tout ça pour moi est
vraiment
cette
marche-là, ouais.
Fait que je me fâche, je m'emporte, mais je comprends pas.
T'es passionnée par ça, c'est comme l'argument très engagé aussi également. Et ça m'amène justement à la deuxième question.
Les gars en parlent pour que les filles puissent se faire écouter, tu sais, c'est dans l'intermédiaire de ça que souvent les commentaires vont.
Mais en même temps, je suis comme un peu de ton point de vue parce que, tu sais,
c'est
comme...
Et c'est dur d'en choisir une, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un de très...
C'est comme si, admettons, on peut en parler.
De quand même relativement intense.
En parler... C'est l'idée que tout le monde peut en parler, ça vraiment... tout le monde.
Là, j'étais comme mais je comprends qu'il y a quelque chose de très fragile, puis une sensibilité que moi, j'ai. T'sais, moi, j'irai jamais par mes discriminations raciales dans la vie.
Parce que je ne suis pas concernée.
Je trouve que
en même temps, je suis super concernée, donc on se comprenne bien, mais
j'aime le cinéma parce que je trouve que c'est l'art le plus...
Comment puis-je témoigner de ça?
Le point de vue que j'ai là-dessus,
là...
Je suis silencieuse et j'écoute.
J'aime le théâtre parce que c'est des arts vivants.
J'écoute mon ami Emna Acho qui est dans mon collectif de création,
qui me parle de c'est quoi la réalité.
J'aime la poésie, j'aime la littérature.
J'essaie même pas de dire, je comprends, j'imagine. Non, non, j'apprends.
Parce que j'aime le rythme des mots.
Même chose pour les communautés autochtones, tu sais.
J'apprends.
Tu sais, puis pour moi, la musique,
j'ai beaucoup d'humilité par rapport à
la chanson, c'est définitivement aussi pour moi de la poésie.
Puis je m'insulte.
Quand je ramasse tout ça, j'arrive dans une espèce de démarche de création.
Tu sais, je suis comme, voyons, où est la femme
sur ce panel? Où je me dis, il y a la scène, tu sais, où le rythme est super important.
Mais celle de David Goudreau, là, j'ai jamais
la présence scénique. Fait que là, celle-là, ça m'échappe.
Puis pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui
a... Mais je trouve qu'il y a un côté présentement une très, très grande contribution à la culture québécoise.
Puis, mais je suis pas dans du dire des grands mots, puis être verbeux, dans du classique, mais je pense qu'il faut choisir ces mots.
Oui, il y a quelque chose qui...
Fait que j'ai vraiment...
Il y a des humoristes qui sont beaucoup plus dans l'improvisation sur des thèmes ou qui vont aller chercher des...
Que je sens
qu'ils sont dans le rythme. Mais tu sais, moi, je peux passer 20 minutes à me demander.
On a la personne, tu sais, je pense qu'on est dans... Moi, je trouve qu'on a une contribution littéraire et artistique, tu sais, qui me fait... qui une pour porte, moi est aussi grande que celle de Dani Laferrière, qui pour moi, tu sais,
un hall.
Je pense que la contribution,
tu sais, puis je dis, il est quand même
ouvrir la porte puis entrer dans le vestibule.
On sait à quel point le processus pour la même chose fait long avant d'avoir une reconnaissance.
Puis des fois, je m'en bourre là-dedans aussi. Là, des fois, ça devient vraiment trop cérébral, puis je deviens prisonnière de ça. Puis je suis comme Isabelle, tu sais,
quatre romans.
Puis au début, ça m'aidait pas sur scène. Si j'oubliais un
ou deux, j'étais comme, j'étais trop dans.
Peut-être plus, je m'excuse.
Là-dedans, des fois, je deviens un petit peu prisonnière.
On n'est pas dans Dani Laferrière.
Mais je pense que c'est aussi grande pour moi, c'est un autre
que j'en parle à la suite d'un autre, parce que
comme Dani Laferrière pour moi,
Radio-Canada avec Louis-José Houde,
mais Louis-José Houde dans sa
Régent de chambre, pour moi, est la fin du monde.
Tu sais, j'écoutais un dernier documentaire sur lui, puis
moi, c'est vraiment dans mon spectre de ce que j'aime.
Un coach, mais qui est vraiment de l'univers de la musique classique, avec qui il travaille tout son rythme scénique.
Puis lui, il est vraiment dans l'écriture, puis dans le choix des mots, puis dans réécrire, puis tout ça.
Ça m'inspire vraiment des
matchs
que je calque un peu.
Je vais être honnête, je copie Louis-José.
Je remarque que t'es passionnée par le discours, t'as l'air très engagée aussi également. Ça m'amène justement à la deuxième session qui était ta passion. Après ça, sur scène, je m'en vais
quelque chose de vraiment différent de lui. Lui prend vraiment de l'espace sur sa scène.
Puis
il est beaucoup dans le dans l'expression, puis tout ça. Tu sais, moi, je m'identifie plus à...
C'est dur d'en choisir une.
Tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un de... Je prends de la place, mais je suis pas dans une exagération.
Moi, c'est quand même relativement intense.
Qui est pas théâtral quand je fais de l'humour.
J'ai réfléchi à ton...
Je m'approche plus de Isabelle comme les raconter quelque chose. Fait que pour revenir à ta question de départ dont je me suis légèrement éloignée, mais je pense que pour moi, le fait consistant de tout ça, c'est raconter des histoires. Puis tout
je trouve que dans toute forme d'art, ça me fait une contribution qui est
me faire raconter. J'aime le cinéma parce que je trouve que c'est l'art le plus complet.
Ça marie les arts visuels, la littérature. Pour raconter une histoire.
Le théâtre. J'aime le théâtre parce que c'est les arts vivants. C'est
une expérience dans une salle. J'ai envie de ça.
J'aime la poésie, j'aime la littérature.
Les dictionnaires synonymes, tu sais, je me souviens.
Parce que j'aime le rythme des mots, puis j'aime la musicalité des
mots. Parce que, tu sais, moi, j'écris des fois.
Puis pour moi, la musique, c'est aussi de la poésie. De la chanson, c'est définitivement aussi pour moi de la poésie.
Ça prend du temps à trouver le bon mot.
Quand je ramasse tout ça, j'arrive dans une espèce de démarche de création.
Avoir la fluidité de la lecture.
Où je me dis, à la scène, avec le rythme, la bonne manière, super important.
Il y a des histoires qui sont scéniques.
Ces histoires, moi, j'ai raconté.
Ces histoires-là, c'est jamais moi qui vais les raconter.
Mais je trouve qu'il y a un côté aussi.
Il y a des histoires qui sont littéraires à ça.
Puis, mais je ne suis pas dans du dire des grands mots, puis être verbeux, dans du classique, mais
c'est ça que je pense qu'il faut choisir.
C'est là pour moi.
Oui,
j'ai vraiment un
travail.
Il y a des humoristes qui sont
beaucoup plus dans l'improvisation.
Moi, je vois quelque chose, j'entends quelque chose, je me prends une note, ça devient une idée.
Que je sens qu'ils sont dans le rire,
je m'assois assez 20 minutes à me demander. Avec cette idée-là,
si je veux dire...
Puis là, des fois, c'est un stand-up,
une porte,
des fois, je me dis non,
ça, à un moment donné, j'ai un personnage dans un sketch qui va faire cette affaire-là.
Tu sais, à un moment donné, je passais
ouvrir la porte puis entrer dans le vestibule.
Devant, tu sais, les douches
moi, la même chose
qu'il y a à côté
des barboteuses.
Puis des fois, je m'en
vais dans les barboteuses.
Ça devient vraiment trop cérébral.
Une barboteuse, tu smash, tu te scratches les genoux comme il faut quand t'es petit.
Au début, ça
ta mère est en maillot de bain sous le bord puis elle sait pas s'il faut qu'elle aille dedans ou pas parce que c'est une adulte.
Là-dedans, des fois, je deviens un petit peu prisonnière de ma pensée.
Puis je voyais les enfants.
Mais ils ont les mêmes comportements que les enfants des années 90.
Ça va barbe à la suite
d'un parce que David Boudreau a fait une
émission Radio-Canada avec Louis-José Houde.
Mais Louis-José Houde, dans sa démarche artistique, lui,
puis le sable un peu partout.
Documentaire sur lui, puis lui, il
fait pipi dans ses culottes, c'est sûr.
Un coach,
mais qui est vraiment
dans la musique classique,
avec qui il travaille tout son rythme scénique.
Puis lui, il est vraiment dans les
choix des mots, dans l'écrire, puis
faisait toutes les mêmes affaires que les enfants.
C'est une démarche, puis ils sont dans la petite douche à côté.
Tu sais, ils sont dans les douches, puis ils chantent, puis ils sont tous nus.
Je copie Louis-José.
Puis là, j'étais vraiment dans une réflexion sur être enfant, l'été, c'est ludique. Qu'est-ce que ça serait si un adulte faisait ça? Comment ça peut se transposer?
Puis j'ai vraiment plein de potentiel comme
de l'espace sur sa scène.
Je n'ai jamais raconté ça.
Puis il est beaucoup dans le...
Je suis comme ça, dans l'expression, puis tout ça.
Tu sais, moi, je m'identifie plus à...
Fait que là, je l'ai mis là.
C'est du stand-up plus classique.
Fait que j'ai des morceaux comme ça,
fait que j'ai des piles,
tu sais. Je suis pas dans une exagération.
Je pense que la passion, c'est raconter les choses qui est pas trop la meilleure manière de le faire.
Puis des fois, là, je m'approche plus de Isabelle, conversation d'amis autour d'une table.
Fait que tu sais,
pour revenir à ta question de départ,
dont je me suis légèrement éloignée, mais je pense que pour moi, le fil conducteur de tout ça, c'est raconter des histoires, puis tous les moyens sont bons pour le faire. Ça me fascine.
Me faire raconter des histoires, puis raconter des histoires. Ça peut être drôle, ou des actions, la passion de trouver des bons mots, conversation, pour raconter une histoire, qui peuvent juste quand tu prends la peine de les apprécier. Il y a vraiment quelque chose à aller voir, puis je suis totalement d'accord, parce que les mots, c'est tellement important. Il y a tellement de synonymes.
Puis là, justement, on parle d'histoire, de raconter, ça m'amène justement à la troisième question.
questions sur soi, parce que, tu sais, moi, j'ai lu plusieurs livres dans les réseaux sociaux
qui t'ont influencé ou qui t'inspirent.
Ça peut prendre du temps à trouver le bon mot que je veux choisir
ou un mot que je dois pour juste
avoir la fluidité de la lecture.
C'est raconter l'histoire avec de la bonne manière. Je sais pas comment.
Il y a des histoires qui sont dessinées.
Moi, j'ai vraiment, au collégial, moi, littérature, j'ai adoré ça. Mais il y a des histoires qui sont...
l'univers qui s'est ouvert, puis
je me rappelle, un des premiers livres marquants de ma vie, qui sont
un numéro de stand-up.
En secondaire 5.
C'est ça que...
C'est là pour moi...
s'appelle La vie devant soi, de Romain Gary.
Où ça situe mon travail.
Qui a gagné le prix Goncourt.
C'est que je pars d'une idée.
Moi, je pars d'une observation. Moi, je vois quelque chose,
j'entends quelque chose.
Romain Gary, c'est une note, ça devient une idée.
Je m'assois. Avec qu'il y avait une espèce d'enjeu d'assumer, tu sais, puis là, des fois, j'ai l'impression, puis qu'il se disait... Est-ce que tout le monde trouve ça bon?
Ça, à un moment donné, j'ai un personnage dans un sketch qui va faire cette affaire.
Puis se questionnait beaucoup sur le phénomène.
Tu sais, à un moment donné, j'étais au parc,
C'est m'écrit sur un pseudo devant les douches
qui étaient là à côté, toutes mes barboteuses.
Quelles sont les jambes de barboteuses?
Ça, c'est mon côté Est de Montréal.
Une barboteuse, son nom,
tu te scratches les genoux comme il faut quand t'es petit.
Fait que sans sa réputation.
Ta mère est en maillot de bain sous le bord, puis elle sait pas s'il faut qu'elle aille dedans.
Je trouve déjà que dans la démarche, il y a beaucoup d'humilité.
Cette place-là, j'aime ça.
Et la vie devant
puis je voyais les enfants puis, qui ont les mêmes comportements que les enfants des années 90 avant à Barboteuse, qu'il y avait des années 80, que je suis sûre qu'il y avait des années 70, puis la petite pelle en plastique, puis le sable un peu partout, puis...
Mais je me souviens d'être dans l'autobus pour m'aller au cégep et de lire ça,
puis je voyais les adultes aussi faire ça, garçons adoptés.
Je me disais,
ce serait vraiment drôle, tu sais, si
t'avais vraiment intelligent, c'est tout écrit dans le langage de cet enfant.
Ils sont dans la petite douche à côté.
Donc, ils sont dans les douches, puis ils chantent, puis ils sont tout nus, puis...
Tu sais, j'étais vraiment dans une réflexion sur changement,
enfant, dans les mots,
d'erreurs dans les mots, en fait, d'erreurs de vocabulaire, mais
ça, comment ça peut transposer le fil, tu sais.
Il y a plein de potentiels comiques.
Au lieu de dire proximité, je sais même plus lequel est le bon mot, proximité,
ça c'est proximité, ça m'a tellement marqué mentalement que je m'ailée.
Fait que là, j'ai tout cet amour de lui,
fait que j'ai des morceaux comme ça, fait que
j'ai des piles, tu sais, fait qu'il s'en occupe.
Je pense que ma passion, c'est raconter les choses, puis trouver la meilleure manière de faire.
Bordel.
C'est des fois, c'est pas si drôle que ça, ça va juste être une conversation d'amis autour d'une table, en me rendant au cégep de Rosemont.
Des petits moments simples que, si tu prends ta caméra,
tu zoomes, tu prends le temps de filmer
une langue, et je sais même pas qu'est-ce que ça a comme influence sur moi. Mais ça a vraiment été un moment très intense d'émotion.
Comme raconter comme conversation entre amis.
Je pleurais vite à 17 ans, c'est quelque chose que tu ne veux pas faire, c'est pleurer dans l'autobus en public. C'est l'orgueil et les gros de même de filles de 17 ans.
Tu peux en rencontrer beaucoup.
Mais je me rappelle vraiment précisément de ce moment-là.
Là, justement, on parle de l'histoire qui t'a raconté. Ça m'amène justement à la troisième question.
Sinon, moi j'ai une grande histoire d'amour avec Réjean Duchamp.
Ce n'est malheureusement pas
très original, mais c'est vrai. J'ai lu l'hiver de
il y a des livres qui ont
le premier genre de chambre que j'ai lu, c'était une lecture imposée aussi au collégial. J'ai vraiment
j'en ai plusieurs
puis moi j'ai vraiment tu sais au collégial
c'est le personnage principal de la vallée des Avalées qui est Bérénice Hamburg,
c'est comme ça que je me suis le plus identifié dans la vie.
Je vais rappeler un des premiers livres que j'ai marquant de ma vie.
Fait pour moi il y a vraiment quelque chose
à ce livre qui s'appelle La vie devant
vraiment très intime avec ce livre là
qui a gagné
et encore une fois les gens de chambre.
C'est donc qui
une reconnaissance
quelque chose que j'aime dans le fait
Romain Gary, c'est
d'être un inconnu et de tenir à rester inconnu et de dire mon
qui avait une espèce d'enjeu d'assumer plus important que moi,
j'ai l'impression, puis qu'il
y a quelque chose à une relation avec son ego. Bon?
Parce que ce que j'ai publié
avant, c'est bon.
Après, je ne connais pas
le phénomène du vedette en public.
Peut-être que c'est super malsain,
qui est enfermé chez nous,
qui est vraiment des problèmes de socialisation.
Mais je reste dans mon Rémi Lajard puis de Romain Gary.
C'est ce que j'ai gagné de la littérature.
Je suis allée voir son nom dans
Fatal.
J'allais voir la pièce de théâtre.
Sans sa réputation qui le précédait.
Je trouve déjà que dans la démarche,
mais moi, je pense que j'aurais jamais dû faire ça.
Moi, j'aime ça.
C'est un univers qui est trop important pour moi.
Et la vie de Romain Gary,
j'ai volontairement décidé de tout oublier.
Ça fonctionne moyen, mais c'est ce que je veux vraiment faire.
Parce que je trouve que,
tu sais, quand je disais qu'il y a des histoires qui sont faites pour être lues, des histoires qui sont faites pour être
cinéma,
des histoires
qui sont faites
pour être racontées sur une scène, pour moi, ça
mais je me souviens d'être dans l'autobus pour m'en aller au cégep et de lire ce
plaisir à imaginer.
Je suis beaucoup trop attachée
à la manière dont je l'ai construite, à la vision que j'en ai.
Ça a juste été un choc, puis j'aurais jamais vu.
C'est vraiment intelligent. C'est écrit dans le langage de cet enfant-là.
Donc, avec
beaucoup d'autres auteurs qui est vraiment pilier pour moi.
Je dirais de changement dans les mots,
d'erreurs dans les mots, en fait, d'erreurs de vocabulaire, mais la vallée des Avaliers. Tout à fait le fil, tu sais.
A été édité chez Gallimard.
Tu sais, il y en a un, au lieu de dire, je ne sais même plus lequel est le bon mot, un proxénète ou une proxénète.
Parce qu'aucun, ça m'a tellement marqué mentalement que je m'ai lié.
C'est tout cet amour de lui.
Et ce gars-là s'est acharné en disant, non,
c'est ça mon œuvre.
C'est ça qu'on va publier. Qui finit par mourir.
Et c'est devenu un des plus grands auteurs.
C'est une maison, un bordel.
C'est fascinant.
Un grand auteur de la francophonie.
Et j'utilisais ça dans le bus.
Fait que j'ai beaucoup d'estime aussi pour la persévérance
puis l'audace.
Et je pleurais.
Là, ça m'amène à une autre personne que j'estime ou à un autre auteur.
De quoi tu veux que je te parle?
Et je prends quelle branche connais-tu?
Je sais même pas qu'est-ce que ça a eu comme influence sur moi, mais
ça a vraiment été un moment très intense d'émotion.
Sinon,
c'est drôle, je suis pas capable de savoir mon préféré. Chose que tu veux pas faire, c'est pleurer dans la salle de chambre, c'est juste en voulant dire, mais en tout cas, je suis vraiment très attachée à la
dernière. Ah, ben oui.
Mais je me rappelle vraiment précisément de ce moment-là. Ça a été pour moi
vraiment une ouverture.
Le premier que j'ai lu, c'est Comment faire l'amour avec un ex.
Que je recommande à tout le monde.
Qui est son premier. Sinon, puis je me suis vraiment reconnue là-dedans, qui est très bizarre,
c'est un jeune en noir, très
une jeune fille de l'Est de Montréal.
Mais c'est vrai, mais il y avait quelque chose là-dedans.
J'ai lu L'hiver de force
dans ce personnage,
le premier Jean de chambre que j'ai lu,
que moi j'ai lu sur le collégial,
sur les possibilités.
J'ai vraiment beaucoup aimé ça, ce qui fait que j'allais lire La Vallée des Avaliers.
Puis aussi sur le courage de ce jeune immigrant.
C'est le personnage principal de La Vallée des Avaliers,
son livre, qui est le personnage
dans sa démarche, le plus identifié.
Fait que, c'est comme si j'en percevais
là-dedans aussi beaucoup de choses que j'aime.
Puis après, pour moi, il y a vraiment quelque chose.
Moi, ça m'ouvre sur le regard de l'autre.
C'est vraiment très intime avec ce livre.
C'est un univers d'Annie Ferrer qui est bien dans la sensualité,
mais qui est aussi beaucoup dans la chaleur.
Puis il y a quelque chose que j'aime dans le fait.
Ça m'a amené à lire
un inconnu et de tenir à rester inconnu et de dire mon œuvre est plus grande que moi et plus importante que moi.
C'est un livre extraordinaire.
Il y a quelque chose, il y a une relation avec son ego.
Que je trouvais extrêmement
saine. C'est un des premiers livres qui m'a
amené vers l'autre.
Il est jamais allé sur la place publique.
Le blanc qui est super malsain, qui est enfermé chez eux.
J'aime l'œuvre de Michel Tremblay.
Vraiment des problèmes de socialisation.
Mais à me ressentir.
Mais je reste dans mon
rêve. De Michel Tremblay, c'est chez nous.
C'est ce que j'aime aussi beaucoup de la littérature.
Je suis allée voir Erreur fatale.
Avec Daniela Ferrière,
je suis allée voir la pièce de théâtre La Vallée des Avaliers.
Puis tu sais, quand tu viens d'un milieu francophone,
mais moi je pense que j'aurais jamais
blanc ça. De l'Est de Montréal.
C'est un univers qui est trop important pour moi. Puis
l'autre, il est pas bien.
J'ai volontairement décidé de tout oublier. Ça fonctionne moyen.
Ça, c'est vraiment ce que je veux vraiment faire.
Puis parce que je trouve que aussi que
tu sais quand je disais qu'il y a des histoires qui sont faites pour être
je trouve qu'il a le don de bien écrire et de bien dire les choses.
Pour moi c'est aussi il avait dit à un moment donné de Richard Martineau qu'il visait intellectuellement
le plaisir à imaginer.
C'est moi. Je suis beaucoup trop attachée à la manière dont je l'ai construite, à la vision que j'en ai, ça a juste été un choc. Puis j'aurais jamais
fait quelque chose que j'aime.
Il y a quelque chose que j'aime.
Il y a une manière de dire,
puis un autre auteur qui est vraiment pilier pour moi.
Ah, plus c'est ce que j'aime dans la personne,
je veux dire,
que j'estime, je pense le plus,
c'est que je trouve la plus courageuse.
La Vallée des Avaliers.
Je pense que j'étais chez Gallimard.
C'est fascinant.
Et non pas au Québec.
Même si j'ai travaillé pour elle, puis que j'ai écouté.
Parce qu'aucun éditeur québécois n'a voulu l'éditer.
C'est Pauline Marois.
Et ce gars-là s'est acharné en disant, non, c'est ça mon œuvre.
C'est ça qu'on va publier.
Avant de me lancer dans ma création, dans le monde, puis de dire que
un grand auteur de la francophonie.
J'étais rendu là.
Fait que j'ai beaucoup d'estime
pour la persévérance, quand est-ce que j'irai
là-dedans. Pourquoi pas y aller, puis pouf.
Là, c'est même c'était pas maintenant, mais j'estime.
Ou un autre auteur pas du travail.
De quoi tu veux que je te parle?
Avant
quelle branche connais-tu?
OK, ben là, une personne, il y a de l'auteur.
Politique dans les équipes de communication,
là, qui est attachée pour
faire. Sinon, il y a tellement de mots en politique.
C'est drôle, hein? Je commence à savoir mon préféré.
Je suis dans l'équipe de communication, Pauline Marois, qui va dire,
mais en tout cas, je suis vraiment très attachée à Daniela Ferrière.
Et c'est quelqu'un que j'estime.
Puis
tellement.
Ça a été pour moi, pour ce qu'elle a fait,
le premier
c'est quelqu'un qui a vraiment donné sa vie pour les autres,
qui est son premier,
puis qui a fait, tu sais,
puis je me suis vraiment qu'on est très bizarre
par rapport aux gens qui font de la politique,
un jeune homme noir, un acte de générosité de l'Est de Montréal,
pas un acte d'égoïsme,
mais il y avait quelque chose là-dedans,
tellement
dans ce personnage,
une femme
que moi j'ai vue,
c'est vraiment très généreuse.
Sur les possibilités.
C'est une femme qui a l'intelligence
d'être, de
vraiment d'écouter sincèrement.
Aussi sur le courage de ce jeune immigrant
qui a le courage
dans
de prendre les décisions
qui, écrit son livre. Puis qui,
et je trouve que c'est une femme qui a accompli des grandes choses pour
c'est comme si je retrouvais là-dedans
sans Pauline Marois. Que j'aime.
Puis après,
il n'y aurait pas de raison.
Moi, ça m'ouvre sur le regard de l'autre.
Sans Pauline Marois, il n'y aurait pas de congé.
C'est un univers d'Annie Ferrer qui est beaucoup dans la sensualité.
C'est des choses qui sont majeures. C'est dans la chaleur.
Ça a vraiment changé notre société.
Ça m'ouvre là-dessus. Puis ça m'a amené à lire ses autres livres.
Je l'admire aussi beaucoup.
Puis je pense que mon préféré, c'est L'odeur du café.
Parce que c'est une personne avec sa grand-mère.
Ah, c'est un livre extraordinaire.
Et elle,
c'est vraiment
elle
s'est fait
dire non pour être chef du Parti québécois.
Mais c'est un des premiers livres qui m'a amené vers l'autre. L'autre qui n'est pas
je pense que c'est des personnes blanches, québécoises, francophones.
Je l'aime, là,
Michel Tremblay. Mais en leur sens, c'est là de Michel Tremblay, c'est chez nous, c'est maman qui crie Isabelle, vient souper, tu sais, c'est
tous les grands ministères.
Fait que Daniela Ferreira, ça a une compétence remarquable, mais être une femme en politique à cette époque-là,
un milieu francophone, populaire, blanc,
un pas à la fois se frayer une place jusqu'à être premier ministre.
Pas bien belle.
Tu sais, c'est de la persévérance incroyable.
Ça, ça a vraiment été une femme
d'une grande rigueur, d'une grande intelligence, d'une intelligence sensible.
Tu sais, Je trouve qu'il a le don de bien écrire et de bien dire les choses aussi. Tu sais, il avait dit à un moment donné
c'était
de
Jean Martineau, mais elle était intellectuellement au milieu.
Elle était rendue à la retraite. Elle s'était finie. Là. Puis là, elle est revenue, puis elle a été première ministre du Québec. Puis là, les gens ont dit qu'il y a quelque chose que j'aime.
Il y a quelque chose là-dedans qui n'a
manière de
dire sens.
Et j'espère que l'histoire va se rappeler.
Puis là, ça m'amène à parler de la personne
elle a eu de grands
accomplissements. Plus que je trouve la plus courageuse.
Pour les femmes, mais aussi pour la société québécoise.
Et j'espère qu'on va focaliser sur les bonnes choses.
Même si j'ai travaillé pour elle, que j'écoute.
Ce que Pauline Marois, je pense, a fait plus grand pour le Québec,
c'est Pauline Marois
à toutes les femmes et à toutes les petites filles.
Puis moi, j'ai,
c'est vrai,
avant d'avoir
vous pouvez faire exactement tout.
Avant de me lancer dans ma création.
Vous pouvez réellement accéder aux plus hautes fonctions.
Et elle en a fait la démonstration.
Fallait que je le fasse. Et ça, c'est une avancée énorme pour le film.
Si j'y allais pas maintenant, j'espère qu'on quand est-ce que j'irai, puis pourquoi pas y aller, pourquoi c'était pas maintenant ma vie.
Parce que tu es vraiment très passionnée et émue.
Avant ça, j'ai travaillé en politique comme conseillère.
Mon podcast léger,
c'est un podcast du mot. Moi, je suis là. La littérature!
Il y a tellement de mots en politique.
Comment ça peut léger, hein?
Je suis dans l'équipe des communications.
C'est pas un podcast vraiment, c'est un podcast que j'invite des humoristes, mais on aborde des sujets qui peuvent être connexes à l'humour, mais ça peut aller totalement ailleurs.
Pour ce qu'elle a fait, c'est quelqu'un qui a vraiment donné sa vie pour les autres.
C'est pas encadré, il faut pas que tu sois drôle, on est comme en train de parler.
Je trouve qu'on est très dur par rapport aux gens qui font de la politique, alors que c'est un acte de générosité d'être en politique, ce n'est pas un acte d'égoïsme. Ça demande tellement.
Dans ce temps-là,
je trouve que c'est une femme.
Ça fait pas longtemps, là, Pauline Marois, mais
c'est ça, vraiment les
années où elle a été aux élections.
C'est une femme qui a l'intelligence
d'échelle qu'elle a dû graduer, qu'elle a dû faire.
Mais qui a le courage de prendre les décisions qui sont nécessaires.
Les hommes sont souvent plus présents.
Et je trouve que c'est une femme qui a accompli de grandes choses pour le Québec.
Ça a dû être quelque chose.
Sans Pauline Marois.
De persévérer, de montrer que c'est possible de graduer les échelles.
Sans Pauline Marois, il n'y aurait pas de congé parental au Québec. C'est des choses qui sont majeures. C'est des choses qui ont vraiment changé notre société.
Qui aurait pensé ça à la petite enfance.
Je l'admire aussi beaucoup.
Les congés parentaux. Tout,
parce que non, puis il y a plein de... Il y a beaucoup de choses dans cette femme.
Et sa capacité à résilience aussi est exceptionnelle. Elle est
du Parti québécois.
Elle,
de mon point de vue, fait que j'ai...
Écoute, elle a été...
Non, je pense que c'est une des personnes les plus administrées de l'histoire du Québec.
Je pense pas, mais je trouve
elle a occupé...
Puis moi, je considère vraiment...
Des fonctions. Elle a occupé tous les grands ministères.
Ça a été une femme ministre.
Une opportunité incroyable dans ma vie que de
tous les grands ministères. Tu sais, fait que c'est une femme d'une compétence remarquable.
Être une femme en politique à cette époque-là et...
Un peu le privilège,
parce que c'est un privilège.
Un pas à la fois, les gens te choisissent
jusqu'à être premier.
C'est un privilège.
Tu sais, c'est de la persévérance incroyable.
Le privilège de servir.
D'une grande rigueur, d'une grande intelligence.
Mais
d'une
intelligence sensible. Je parle de Mme Marois, mais
ça, j'estime beaucoup
ça. Même les politiciens avec lesquels je ne suis pas d'accord.
Oui, il y en a. Il y en a des corrompus, puis il y en a qui sont allés faire ça pour être glades.
Elle était
complètement dans leur ego.
Elle s'était
je crois vraiment qu'elle est revenue, puis elle a été première ministre du Québec.
Puis là, les gens, ils ont dit, vous portez trop de foulards.
Beaucoup de respect pour la fonction
mais c'était... Il y a quelque chose là-dedans qui n'a aucun sens.
C'est pour
et j'espère que l'histoire va se rappeler à quel point elle a eu de grands accomplissements. Pour les femmes, mais aussi pour la société québécoise.
Et
j'espère qu'on va focaliser
sur la bonne que la belle question.
Non, mais c'était juste
ce que Pauline
Marois,
je pense, a fait plus grand pour le Québec, c'est qu'elle a dit à toutes les femmes et à toutes les
non, c'est des questions qui m'habitent. Je te mentirais, je te dirais que c'est des questions qui m'habitent.
Est-ce que présentement, je suis là-dedans?
Et vous pouvez réellement accéder aux plus hautes fonctions.
Est-ce que la fait la démonstration?
Et ça, c'est une avancée énorme pour le film.
Genre d'une candidate de création de
fonds. En tout cas, dans ton podcast, on va
se mais oui, je ne dis pas que j'en referai pas, mais pour l'instant, j'ai envie de la consacrer à la création.
Mon podcast,
mais c'est quelque chose
léger,
comme ça.
On pourrait se donner au début
du mot. Moi, je suis là.
Tu dirais qu'est-ce qui te passionne, Isabelle, je dirais la politique et le service
public. C'est pas léger,
tu vois. Mais oui, j'aime beaucoup ça.
C'est un podcast vraiment
léger. Mais je trouve aussi qu'à travers les mots,
mais on aborde des sujets qui est peu.
Il y a moyen, moi, je trouve, d'amener les gens à réfléchir sur le monde qui les entoure en faisant des blagues.
C'est ça qui est le fun.
Et je pense que.
Il faut pas que tu sois drôle. On est
présentement,
en
étant
relax,
épaisse sur une scène,
avant
quand
que
je parle de féminisme, quand je parle d'actualité
vrai,
politique, quand je parle de campagne électorale,
mais T'sais, les années où ben, elle a été en
ça amène quand même les gens à se pencher sur ces questions-là.
Qu'elle a dû graduer, qu'elle a dû faire...
Puis c'est une démarche, moi, je trouve, qui m'intéresse. Puis je pense déjà que juste
ça a dû être quelque chose
d'aller sur une scène,
de persévérer, de montrer que le propos soit engagé ou pas, de graduer les échelles,
d'aller vivre une expérience avec des gens.
Une femme au Québec dans ces années-là.
C'est une contribution.
Je pense pas qu'il y aurait eu un ministre, premier ministre,
que de faire ça.
Penser ça à Audre,
pour moi, la culture et les arts, c'est une grande contribution. Non, puis il y a plein de
sociétés,
de données
au monde. Il y a beaucoup de choses dans cette femme. Puis sa capacité de résilience aussi est exceptionnelle.
Mm-hmm. Puis pendant un moment, de mon point de vue, si on est chanceux, puis ça va bien réussir.
Je pense que j'ai aussi beaucoup d'affection.
Donner un petit peu de bonheur, mais je trouve que c'est...
C'est déjà
comme... Puis moi, je considère vraiment...
C'est déjà comme... Il parle de ta soirée, puis il y a quelque chose, c'est comme un cadeau que tu leur donnes. Il y a des réflexions que tu suscites.
Tu sais, quand tu veux contribuer à ta société, d'avoir...
Même...
un peu le privilège, parce que c'est un privilège d'être élu. Les gens te choisissent. C'est un privilège. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, puis le privilège de servir.
La culture du viol, c'est intéressant d'en parler.
Et c'est pour ça que, tu sais, quand je parle à Mme Marois, mais...
Comme fermant, même les politiciens avec lesquels je ne suis pas d'accord.
Oui, il y en a, là. Il y en a des corrompus. Puis il y en a qui sont allés faire ça pour être blancs. Puis qui sont complètement dans leur ego. Oui, puis des fois, c'était juste niaiseux. Des fois, c'était juste niaiseux. Puis ça t'a fait du bien d'aller rire pendant une heure. Ou des fois, c'est juste beau. Puis ça te fait du bien que quelqu'un te raconte une histoire touchante.
Et je trouve ça.
On n'est pas toujours obligé d'être dans notre tête. Mais c'est ça que j'aime aussi de l'humour. Je trouve que l'humour, je trouve que le rire, c'est communicatif. Puis le rire, ça part du cœur. Ça part des tripes.
Toi, ça t'intéresse-tu aller en politique? Je sais pas. Lance ça comme
j'aime bien ça comme toi, la bonne la belle question.
Non, mais c'était juste par curiosité, là. Tu peux dire non, tu peux dire. J'ai terminé cet épisode.
Non, c'est des questions qui m'habitent. Je te mentirais, je te dirais que c'est des questions qui m'habitent. Est-ce que présentement, je suis là-dedans?
Que j'aurais jamais pensé l'avoir sous cet angle-là.
Est-ce que la porte est fermée?
C'est une personne tellement généreuse, sensible.
Genre d'une candidate de création de
droit.
C'est une travailleuse. Est-ce que je t'interromps?
Mais oui,
non, mais je ne suis pas travailleuse sociale.
C'est une travailleuse.
Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer à la création.
Je pense que quelqu'un qui choisir mais le
c'est
travail quelque chose social.
On pourrait revenir au début de l'entrevue.
Déjà, je dirais qu'est-ce qui passionne Isabelle, puis je dirais la politique
et ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut, sur comment elle est contre. Mais oui, j'aime beaucoup ça. Mais je trouve aussi qu'à travers l'humour,
il faudrait
il y a moyen, moi, je trouve, d'amener les gens à réfléchir sur le monde qui les entoure en faisant.
Je sais pas comment ça. Je connais pas son cheminement, mais tu sais, ça.
Je pense que tout ça.
Présentement.
Elle me l'a pas dit, là. Je vais
laisser mon impression.
Je trouve que dans Madame Marois, il y a
quand je parle de féminisme.
Mais elle disait souvent prendre soin.
Quand je parle d'actualité politique.
Je trouve que vraiment, c'est quand je parle de prendre soin
de campagne électorale. Elle a fait de la politique pour les bonnes raisons.
Ça amène quand même les gens à se pencher sur ces questions-là.
Contribuer.
Faire ce qu'on peut.
Puis c'est une démarche
pour la rendre meilleure, pour la rendre plus juste, pour la rendre plus équitable. Puis je pense,
de mon point de vue, le meilleur moyen de faire ça, c'est de devenir un
d'aller sur une scène.
Histoire.
Mais je trouve que c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui est
d'aller vivre une expérience avec des gens.
Pour le Québec, puis j'espère qu'on...
que c'est comme ça.
C'est une contribution. C'est une contribution pour moi.
Merci beaucoup, Isabelle. Et merci
pour moi, la culture et les arts, c'est une grande contribution à notre société. Puis de donner au monde un break.
Oui, mais c'est une fois, on écoute. J'arrête d'enregistrer. Mais
pendant un moment,
on
est chanceux.
Bien, c'est correct.
Réussir alors, donner un petit peu de bonheur.
Le but, c'est vraiment pas que tu sois... Genre,
déjà comme, super, il parle de ta soirée, drôle, puis il y a quelque chose... Non, parce que c'est zéro drôle. Là, je me rends compte que j'ai parlé, ben, ça, c'est marquant, ça, c'est ça.
J'aime ça.
J'en suis consciente parce que des fois, moi, en tout cas, je vais voir des soirées du monde, puis des fois, il y a des propos que je comme, je repars de là, je suis comme, hey, c'est vrai, tu sais. La culture du viol, c'est intéressant d'en parler. C'est pas tout le monde qui sont comme fervents ou qui connaissent vraiment c'est quoi exactement. Puis des fois, d'en parler, ça suscite vraiment des réflexions ou des conversations juste avec les personnes que t'as été voir, que t'es, t'sais.
Oui, puis des fois, c'était juste niaiseux. Des fois, c'était juste niaiseux, puis ça t'a fait du bien d'aller rire pendant une heure. Ou des fois, c'est juste beau, puis ça te fait du bien que quelqu'un te raconte une histoire touchante. On n'est pas toujours obligé d'être dans notre tête, mais c'est ça que j'aime aussi de l'humour. Je trouve que l'humour, je trouve que le rire, c'est communicatif, puis le rire, ça part du cœur, puis ça part des tripes.
Oui.
Fait que, t'sais.
Oui.
Ben, j'aime bien ça comme véhicule.
Ben, je trouve ça super beau comme dernier message, que l'humour, c'est un bon véhicule. Puis Je vais terminer cet épisode-là, mais merci encore pour ce beau partage, ce témoignage sur Pauline Marois, que j'aurais jamais pensé l'avoir sous cet angle-là. Sur le, tu dis que c'est une personne tellement généreuse, sentiment, d'intelligence sensible.
Mais c'est une travailleuse sociale. Est-ce que je t'interromps pendant
ta réponse? Non, mais c'est correct.
Non, mais c'est une travailleuse sociale, c'est une travailleuse sociale de formation. Oui. Je pense que quelqu'un qui choisit le travail social dans la vie, déjà, ça en dit beaucoup. Sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut être, puis sur comment elle veut contribuer.
Elle a comme du terrain. Elle a déjà été sur le terrain, pour... puis elle a constaté ça, puis elle a dit, là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se mette en branle, puis là, c'est là qu'elle a posé sa candidature.
Et je sais pas comment ça... Je connais pas son cheminement, mais tu sais, ça... je pense que tout ça... Puis là, elle me l'a pas dit, là, mais c'est mon impression, mais je trouve que dans Madame Marois, il y a beaucoup... Mais elle disait souvent prendre soin de son monde dans ses allocutions. Puis je trouve qu'il y a vraiment cette volonté-là de prendre soin des gens. Puis quand je dis qu'elle a fait de la politique pour les bonnes raisons, c'est vraiment dans une vision de prendre soin de sa communauté, contribuer, faire ce qu'on peut pour la rendre meilleure, pour la rendre plus juste, pour la rendre plus équitable. De mon point de vue, le meilleur moyen de faire ça, c'est de devenir un pays. Mais c'est une autre histoire! Mais je trouve que ouais, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui est important. C'est une personne qui était très importante pour le Québec. Puis j'espère qu'on... que c'est comme ça dont on va s'en souvenir.
On va s'en souvenir. Mais merci beaucoup, Isabelle. Et merci encore de ton déplacement. Et ben, je te souhaite une bonne journée.
Ben, merci. Toi aussi. Merci d'avoir
été.
Vraiment.
Oui, ben, c'est le fun. Écoute, là, j'arrête d'enregistrer, mais...
Ben, c'est le fun. C'est le fun. C'est intense, hein?
Ben, c'est correct. C'est intense, parce... Non, écoute, c'est super parfait. Le but, c'est vraiment pas que tu sois, genre, super... drôle.
C'est ça, non, parce que c'est zéro drôle. Là, je me rends compte que j'ai parlé bien intensément. Ça, c'est marquant. Ça, c'est ça. Mais j'aime ça. J'aime ça être de même.
Mon entrevue avec l'humoriste Isabelle Monette est déjà terminée. Ah! Moi aussi, je suis triste et j'ai envie de me rouler en petite boule puis manger des chips. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, ben, je vais faire une chronique sur c'est quoi ça, la mémoire. Moi, le cerveau, ça m'a toujours intéressé, comment le cerveau fonctionne, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme. Parce que justement, c'est quelque chose que je dois beaucoup travailler quand il faut que j'apprenne un texte par cœur et que je dois le présenter dans une soirée d'humour. Donc, ensemble, on va décortiquer un peu la mémoire. C'est quoi ça? Si jamais tu apprécies aussi l'épisode, gêne-toi pas pour le partager, me taguer dessus, c'est toujours le fun. Si vous aimez beaucoup mes épisodes, je t'invite à venir faire un petit tour, justement. Je vais te présenter mon podcast Un bon moment devant public le 14 juin à 19h. Et si tu veux revoir Isabelle Monette, ben elle aussi, elle va faire un show d'humour avec ses acolytes, ses amis, comme on dit. Donc, le 14 juin également. Donc, si tu veux avoir plus d'informations, ben viens regarder sa bio. Va la suivre sur Facebook ou viens me suivre aussi en même temps, là. L'épisode va être disponible la semaine prochaine, mercredi, sur YouTube et Spotify. Je m'appelle Coralie Dubois. Je suis humoriste et enseignante. Et je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!